Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église est centrée sur la santé du pape François, hospitalisé depuis vendredi dernier à l'hôpital Gemelli à Rome. L'actualité de l'Église nous conduira également au Bénin ainsi qu'au Burkina Faso. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne la République démocratique du Congo, le Soudan et la Guinée, entre autres. La rubrique sur l'invité du jour nous conduira de nouveau en République démocratique du Congo. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape François est hospitalisé depuis vendredi dernier à l'hôpital Gemelli de Rome. Il a passé mardi un scanner thoracique qui a révélé une pneumonie bilatérale et continue d'afficher un tableau clinique complexe nécessitant un traitement médicamenteux supplémentaire. La salle de presse du Saint-Siège a rapporté dans la matinée de mercredi 19 février que le Saint-Père a passé une nuit paisible. Plusieurs messages de vœux de prompt rétablissement sont parvenus au pape, dont ceux des enfants hospitalisés dans l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli. Le souverain pontife adresse à tous ses remerciements pour la proximité qu'il ressent en ce moment et demande avec un cœur reconnaissant que l'on continue à prier pour lui, a rapporté mardi soir la note du bureau de presse. L'audience générale du mercredi 19 février a été annulée. Les engagements initialement prévus pour le samedi 22 février ont également été annulés. De même, pour la messe prévue le dimanche 23 février à 9h, heure de Rome, dans la basilique Saint-Pierre, à l'occasion du jubilé des diacres, le pape a délégué Mgr Rino Fisichella, proprefet du dicastère, pour l'évangélisation. Le bureau de presse du Saint-Siège a publié mercredi la catéchèse du pape François préparée pour l'audience générale qui devait avoir lieu le 19 février. Le texte qui, conçu dans le cadre du cycle jubilaire de catéchèse sur Jésus-Christ, notre espérance, l'enfance de Jésus, propose une réflexion sur la visite des mages au roi nouveau-né. Le souverain pontife y développe une méditation sur ces hommes qui savent regarder au-delà d'eux-mêmes, qui savent regarder vers le haut. Les représentants des groupes constitués par le Saint-Père sur les questions évoquées au cours de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques se sont réunis dans la matinée de mardi 18 février. Chaque coordinateur a présenté le travail de son groupe en s'attardant notamment sur la méthode, les sujets abordés, le calendrier prévu pour la remise du rapport et les difficultés rencontrées. La rencontre a commencé par un temps de prière au cours duquel les participants ont prié pour la guérison du pape. Du 19 au 23 février, le préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, le cardinal Michael Cerny, effectue une visite à Beyrouth, au Liban, pour encourager les projets de l'Église locale et des organisations humanitaires, pour également y rencontrer notamment le leader de la communauté sunnite libanaise et un groupe de réfugiés syriens. Lors d'une récente visite au Burkina Faso, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a exprimé le soutien du Saint-Siège aux efforts déployés par ce pays pour rétablir la paix et le développement. Cette visite a coïncidé avec la conclusion des célébrations du 125e jubilé de l'évangélisation catholique dans le pays. Les détails sur la conclusion de ce voyage avec Yvette Yen.
Après avoir célébré une messe au grand séminaire Saint-Jean-Baptiste, rendu visite à Sa Majesté le Mogo Naba et rencontré le peuple de Dieu à la cathédrale de Ouagadougou le 18 février, le cardinal Pietro Parolin a effectué sa dernière visite avant son départ. Il s'est rendu à Pabré auprès des personnes déplacées internes vivant dans cette partie de la ville, une population qu'il a vivement souhaité rencontrer depuis son arrivée au Burkina Faso.
Depuis mon arrivée à Ouagadougou, j'ai ardemment désiré être présent ici, au cœur de vos souffrances, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. L'Église est toujours à vos côtés, prête à vous soutenir et à vous apporter réconfort et espérance. Gardez l'espérance et continuez de prier, car Dieu est avec vous. et ne vous abandonnera jamais.
Accompagné des plus hautes autorités de l'Église catholique, il a exprimé dans un discours empreint de compassion la solidarité et la proximité de sa sainteté envers l'ensemble du peuple burkinabé et en particulier les déplacés internes qui vivent dans des conditions précaires. Le cardinal a rappelé l'importance de la solidarité et de l'humanité en période de crise, soulignant que l'Église continue de prier pour que règne la justice et la paix. Cette visite empreinte de générosité et de foi constitue un geste fort de réconfort pour ces personnes au Burkina Faso. Yvette Yen pour Radio Vatican.
Du 14 au 16 février, le diocèse de Porto Novo au Bénin a tenu la 65e édition de son pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame des Lagunes. Les détails avec Juste Hanlanon.
Avec Marie, vivre dans la grâce de l'Esprit Saint pour être pèlerin de l'espérance. Tel est le thème de cette 65e édition du pèlerinage diocésain de Porto Novo. Et effectivement, le maître mot de l'homélie de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo, au cours de la messe de clôture de ce pèlerinage, sera l'espérance.
J'aime bien quand le pape François déclare que l'espérance est contenu dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien. C'est ce que nous voulons découvrir et c'est surtout ce que nous voulons emporter de ce pèlerinage.
Comme à l'accoutumée, Monseigneur Aristide Gonzalo a aussi administré à la même occasion le sacrement des malades à des patients, mais aussi des personnes âgées arrivées des paroisses et hôpitaux du diocèse. Mais avant, il les a réconfortés en empruntant à nouveau des mots du pape François.
L'expérience de la maladie, le poids de l'âge ou encore le fardeau de la souffrance face à des difficultés insurmontables vous confronte à votre propre pauvreté. Et je sais combien vous vivez douloureusement ces moments difficiles. Oui, comme l'affirme le pape, la maladie peut devenir un chemin où fleurit l'espérance.
Porto Novo, Juste Rlanon pour Radio Vatican.
Dans l'est troublé de la République démocratique du Congo se trouve le diocèse de Kasongo, situé dans la province du Maniema. Un diocèse vaste qui fait face à de nombreux défis, mais qui vit avec beaucoup d'espérance et de générosité. Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo, nous parle de cette circonscription ecclésiastique. On l'écoute.
Le diocèse de Kasongo est dans la province du Maniema. C'est l'ancien Kivu, qui a été divisé en trois provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. C'est le centre-est du pays. Ouais, donc c'est Kindu qui est le chef-lieu, et au sud de Kindu, il y a le diocèse de Kasongo. C'est un diocèse immense, avec 75 365 km², qui comprend quatre territoires. Le territoire de Shabunda dans le Sud Kivu, ceux de Kabambare et Kasongo et Pangi dans le Maniema.
Quels sont vos défis pastoraux principaux dans le diocèse de Kasongo?
D'abord, le premier, c'est celui de vocation religieuse et sacerdotale. Nous n'avons que 21 paroisses. Avoir les succursales que nous appelons diaconies. Il y a des diaconies qui ont le visage d'une paroisse. Mais par insuffisance de personnel, ces communautés continuent à être animées par une équipe de deux ou trois prêtres. Mais l'idéal serait de créer de nouvelles paroisses. Le deuxième,
et c'est créer les nouvelles paroisses, ça vous lance aussi un défi d'ordre économique, évidemment.
Justement, oui, je voulais arriver là. Le deuxième défi, c'est celui de l'autoprise en charge. Le diocèse de Kasongo a été créé en 1950, le vicariat apostolique, en démembrant le vicariat de Baudouinville. C'est en 1959 qu'il est devenu diocèse. C'est une église missionnaire, mais avec le départ de missionnaires, les fidèles se trouvent confrontés à des problèmes d'ordre économique. Nous sommes un diocèse rural où on cultive beaucoup d'arachides, beaucoup de riz, beaucoup de maïs.
On fait aussi l'élevage. Exporter.
Oui, mais les voies pour évacuer vers les centres de communication, les centres de consommation, je voulais dire, sont inexistantes. C'est ça le drame. Ils produisent beaucoup, ils consomment, mais ils ne peuvent pas tout consommer. Là, c'est un peu le drame puisque ce sont des productions qui pourrissent par faute de voies d'évacuation.
Donc, il faut vraiment toute une organisation pas seulement diocésaine, mais étatique aussi, non?
Tout à fait.
Une politique.
Il revient à l'État de réhabiliter les routes de dessertes agricoles et des voies d'évacuation de ces produits vers les centres de consommation. Malheureusement, on n'en est pas là. C'est des routes qui sont en train de disparaître, faute de réhabilitation. Voilà, donc je disais que le deuxième défi, c'était celui de l'autoprise en charge, mais les communautés chrétiennes ont été suffisamment sensibilisées et nous en voyons le fruit. Je prends nos maisons de formation, parce que nous avons une propédétique et un philosophat. Les subsides que Rome envoie se réduisent chaque année. Alors, pour combler ce déficit, je demande aux fidèles de m'apporter de la nourriture. C'est des dons en nature pour les maisons de formation et je vois leur générosité.
Monseigneur, avec ces défis, comment est-ce que vous vivez les jubilés de l'espérance dans les diocèses de Kasongo?
Je peux là dire que ces jubilés, nous les vivons avec beaucoup d'espérance d'abord, parce que nous sommes tournés vers le Christ. Alors, c'est lui qui nous apporte cette espérance et nous invite à être des témoins de cette espérance partout où nous vivons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les routes manquent. Mais je vois que les gens se débrouillent. Je n'ai pas vu un seul signe de découragement. Alors là, nous rendons grâce au Seigneur, parce que celui qui est devant toutes ces initiatives...
Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo en République démocratique du Congo, interrogé par Stanislas Kambashi.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un responsable de l'opposition en Guinée, Abdoul Sako, a été arrêté mercredi matin par des hommes masqués à son domicile en banlieue de Conakry, selon des sources proches de sa famille et son avocat. Monsieur Sako est un des responsables des Forces vives de Guinée, une coalition des principaux partis, de syndicats et d'organisations non gouvernementales qui réclament un retour des civils au pouvoir dans ce pays. L'Union africaine a dénoncé mercredi les crimes de guerre et crimes contre l'humanité incessants au Soudan, ravagé par une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés depuis avril 2023, alors que l'armée contrôle l'est et le nord du pays. Les paramilitaires maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, une vaste région de l'est du pays où vivent un quart de 50 millions de Soudanais. Par ailleurs, la présidence du Kenya a été critiquée par le gouvernement du Soudan et par des personnalités locales mercredi pour l'accueil sur son sol des paramilitaires soudanais y prévoyant d'y proclamer un gouvernement parallèle dans 2 jours. L'armée ougandaise a déclaré mardi avoir envoyé des troupes dans la ville de Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Ce déploiement survient alors que le groupe armée M23 alliée à des troupes rwandaises s'est emparée dimanche de la ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, après une progression qui les a vus prendre fin janvier Goma, grande ville et nœud économique du Nord Kivu. Samedi, le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, avait donné 24 heures à toutes les forces de Bunia pour rendre leurs armes. S'ils ne le font pas, « Nous les attaquerons », avait aussi averti le fils du président Yoweri Museveni. L'Ouganda a été accusé par des experts de travailler aussi contre les intérêts de la République démocratique du Congo en soutenant le M23, lui permettant d'utiliser le territoire ougandais comme voie d'approvisionnement, des accusations que le pays a fermement rejetées. Des analystes craignent que l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo ne conduise à une répétition de la situation de 1998 lorsque l'Ouganda et le Rwanda soutenaient des groupes rebelles dans la région. Le Rwanda a annoncé mardi la suspension des programmes d'aide au développement belge dans le pays, accusant la Belgique d'avoir pris fait et cause pour Kinshasa et contre lui dans le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo.
Invité du jour.
La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo semble prendre une perspective inattendue depuis la prise de Bukavu par les rebelles du M23. Selon le père jésuite Toussaint Kafariré, la dimension qui s'affiche répond à un plan bien élaboré depuis 30 ans. la conquête du territoire congolais par son voisin, le Rwanda, on l'écoute.
Je pense que la guerre prend des dimensions que peut-être le profane peut dire inattendues, mais pour les gens qui ont suivi l'évolution de la situation dans la région pendant plus de 30 ans maintenant, je pense que c'est quelque chose qui était tout à fait prévisible. Et je l'ai dit pourquoi, parce que je pense que ce n'est pas une guerre qui vient de commencer aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Le M23, c'est un groupe qui a existé depuis à travers toute l'histoire des 30 dernières années. Et nous savons que ça fait partie en fait d'une stratégie de ceux qui ont décidé d'envahir le Congo. Et ceux qui déjà, vers la fin des années 90, les leaders, les présidents de l'Ouganda, Yoweri Museveni, et le président du Rwanda, Paul Kagame, avaient déjà présenté à la communauté internationale comme une volonté de revisiter les frontières hérité de la colonisation. Alors, si vous faites attention au discours du président Kagame du Rwanda, la justification qu'il veut donner à cette agression du Congo, il fait remonter le problème au temps colonial et à la division des frontières et des groupes ethniques. C'est une question que nous pouvons peut-être explorer plus en profondeur, mais juste pour dire que dès le jour 1 de cette agression en 1996, pendant toutes ces négociations, il faut vous rendre compte que la stratégie de Kigali a toujours été la même, c'est d'envahir le Congo militairement pour les forcer à négocier et pour en profiter justement pour infiltrer des gens dans les institutions à la fois de l'État, donc le gouvernement, le Parlement et tout ce qu'on peut imaginer, et non seulement cela, jusque dans l'armée, en forçant l'armée nationale congolaise à accepter des éléments étrangers qui contrôlent alors l'information de l'intérieur et qui torpillent en fait les initiatives de souveraineté du pays.
Comment pouvez-vous interpréter le fait que l'administration et les forces de sécurité de la ville de Bukavu se soient retirées avant que l'ennemi ne soit face à eux?
On peut évoquer plusieurs raisons. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est de voir la barbarie et les atrocités qui s'étaient passées à Goma après que les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 se soient emparés de la ville. Les militaires à Goma avaient résisté pendant un temps. On a entendu parler des Wazalendo, c'est-à-dire les patriotes résistants. Mais lorsqu'ils ont été submergés par la force des armes qui venait de notre voisin, alors, on a vu qu'il y a eu des massacres alors qui ont suivi, n'est-ce pas? Il y a eu des massacres qui ont accompagné l'occupation de Goma. Une deuxième raison que je peux évoquer, qui n'a rien à voir peut-être avec ce massacre, mais qui peut avoir à voir avec lassitude qui semble se généraliser dans la population, c'est qu'on remarque les failles du gouvernement. Alors, les préoccupations à un moment donné des hommes politiques à Kinshasa et surtout du parti au pouvoir étaient de changer la constitution. Et les gens n'ont pas arrêté de montrer que ce n'était pas une priorité parce que les questions des sociétés, les questions sociales, tout ce que nous avons fait comme revendication pour une meilleure gestion de la chose publique n'ont pas été écoutées. Alors, ça c'est aussi un autre aspect peut-être qu'on peut prendre en considération. Et se rendre compte que la démotivation de nos forces armées, de nos troupes, est un facteur qu'on ne peut pas renier, alors qu'on a besoin vraiment de nous galvaniser, de nous mettre ensemble, de demander même à cette même population de soutenir leurs militaires qui sont en front, parce qu'ils ne se battent pas pour eux-mêmes, ils se battent pour quelque chose qui nous dépasse tous, qui est l'intégrité de la patrie et l'avenir de nos enfants.
Père Toussaint Kafari est jésuite, directeur du centre Aroupé pour la recherche et la formation et président de l'African Studies Association of Africa. Il répondait aux questions de Fabrice Bagendekere.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.
Good, it must be.